Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Eh oui, c'est nouveau, c'est sur Radio Immo, Complètement à l'Ouest. Et celui qui tient la barre de cette émission, c'est Philippe Boyer. Bonjour Philippe Boyer.
Bonjour Billy.
Philippe, vous êtes directeur innovation chez Covivio. Pourquoi vous avez décidé, pour cette rentrée, de nous emmener si loin et être complètement barré?
Alors c'est la rentrée, depuis maintenant près de 2 semaines. Il y en a même certains qui appellent cela la rentrée d'automne. Mmh. Nous revenons de vacances après nos migrations estivales vers le sud, l'est, le nord et vers l'ouest également. À l'ouest, justement, restons-y.
J'allais vous le proposer.
Et tentons le tout pour le tout en revendiquant même d'être complètement à l'ouest. Assumons de voyager, assumons la normalité, assumons les différences, en ne parlant pas seulement d'immobilier, bref, assumons l'éclectisme. C'est le pari de Complètement à l'Ouest.
Alors, tout ça, c'est beau, c'est bien dit, c'est bien léché, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'émission, Philippe?
Alors, pendant cette émission, on va s'égarer, on va se perdre en découvrant des personnes forcément extraordinaires.
Moi, je vous connais, oui.
Qui vont nous éclairer et nous rendre plus intelligents.
Ah ben, ça, je suis preneuse.
Donc, c'est parti. Droit devant, boussole en main, largons les amarres et cap à l'Ouest, j'allais dire complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, l'invité.
Première invitée d'une première émission, c'est toujours une émotion. Philippe, vous avez choisi une femme. Ça, c'est une première qualité. Est-ce que la femme que nous proposez aujourd'hui est une femme, comme on dit, qui est barrée, elle aussi?
On verra si elle est complètement à l'ouest, mais pour cette première de complètement à l'ouest, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Vito, présidente de Cadre Noir, un cabinet d'études qui réfléchit au futur du travail, enseignante à Sciences Po et à l'Université de Paris Dauphine, mais également rédacteur en chef du média Welcome to the Jungle. Laetitia Vito publie un livre passionnant sur le travail en ce début de 21e siècle, son titre « Du labeur à l'ouvrage », avec pour sous-titre « L'artisanat et l'avenir du travail ». Bonjour Laetitia Vito et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Bonjour Laetitia.
Merci de m'avoir invitée.
Mais vous êtes la bienvenue.
Je le disais à l'instant, la thèse de votre livre, c'est que le monde du travail que nous a légué le XXe siècle est en crise. Et vous affirmez qu'un nouveau monde est en train d'émerger, un monde où l'on aura remplacé le mot « travail » par le mot « d'ouvrage », entendu au sens de ce que produit l'artisan. Première question toute simple. Pour nous adapter à cette nouvelle donne du travail, allons-nous, devons-nous nous préparer à devenir nous-mêmes des artisans?
Oui, c'est ce dont je suis assez convaincue. En fait, c'est marrant parce que quand on parle de travail, on a toujours deux familles de mots. Dans presque toutes les langues, il y a une famille de mots qui se rapporte à la torture. Hein, travail, tripalium, l'instrument de torture des Romains avec lequel on écartèle les gens. Quand on pense au labeur, c'est pareil. On pense à sueur, on pense à douleur, on pense au châtiment de la Bible. Hein, labor en anglais, c'est le même mot qui est utilisé pour le travail de l'accouchement. Hein, donc on souffre par les entrailles et on souffre par la sueur de son front. Et on est toujours resté dans cette image-là, mais en même temps, parallèlement à ça, on a un autre univers qui est aussi dans notre imaginaire, mais qu'on n'associe pas au travail, c'est l'univers de l'artisanat, de l'œuvre, de l'ouvrage, de la création, de quelque chose qu'on laisse derrière, de ce qu'on laisse de soi derrière. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on va de l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on va du labeur à l'ouvrage? Et est-ce que ça peut concerner tout le monde? Parce qu'on me pose toujours cette question, finalement, c'est bien gentil de parler d'artisanat, mais est-ce que ça concerne tous les métiers? Est-ce que ça ne concerne pas qu'une poignée de privilégiés qui peuvent se permettre de se poser cette question? Eh bien, justement, non. Les valeurs de l'artisanat, l'organisation du travail de manière artisanale, en fait, elle peut valoriser et améliorer absolument tous les métiers et tout le travail.
Alors, à longueur d'ouvrage, vous parlez de labeur, vous parlez d'ouvrage, vous parlez d'artisanat, vous parlez de travail, bien sûr. Pourquoi vous êtes-vous attaché à différencier ces termes, finalement, très proches les uns des autres ?
Alors, je parle dans le livre de... une idée, c'est que on avait un contrat au XXe siècle, que j'appelle le contrat de labeur, et qui était irrésistible. Donc, en échange de la division du travail, parce qu'un travail à l'usine, il faut penser à Chaplin en train de serrer les boulons, de faire exactement la même chose à longueur de journée. Pourtant, Chaplin ne se pose pas la question du sens, lui. Il se pose la question du revenu. Il se pose la question de la stabilité économique. Mais donc, en échange de la division du travail et de la subordination, c'est-à-dire de l'obéissance à un chef, eh bien, on nous offrait tout d'un coup, à partir du milieu du XXe siècle, un ensemble d'avantages irrésistible, une sécurité économique, un revenu régulier. Avec ce revenu régulier, vous avez la possibilité de prouver votre solvabilité, puis d'avoir un crédit bancaire pour acquérir un bien immobilier. Donc le logement faisait partie de ce paquet d'avantages. Une retraite, un revenu différé, une protection sociale, la santé, des congés payés, un syndicat puissant qui vous défend et qui vous amène la promesse d'un enrichissement futur, la promesse de l'ascension sociale pour vos enfants, et j'en passe. C'est énormément d'avantages, des choses qui sont explicites et implicites dans le contrat. Si bien qu'on ne se posait pas trop la question, en fin de compte, de remettre en question la division du travail et la subordination. Certes, ce n'était pas franchement excitant du point de vue 1, finalement, l'important était ailleurs. L'important était dans l'identité qu'on avait, l'identité sociale, politique, syndicale, les amis qu'on avait, les collègues. Finalement, on s'y retrouvait très bien. Et la sécurité économique et l'enrichissement qu'il a permis était quand même assez irrésistible.
Pourquoi l'artisanat a été à ce point-là marginalisé par l'économie de masse au XXe siècle ?
Ben voilà, c'est à cause du contrat de labeur. Le contrat de labeur a rendu l'artisanat beaucoup plus marginal, parce que grâce à ce contrat de labeur, qui a été rendu irrésistible par les nombreux avantages, eh bien, on a pu avoir des gains de productivité extraordinaires. On a mis en route une machine, où la production de masse nourrissait une consommation de masse, et inversement, c'est la grande innovation de Ford de bien payer ses travailleurs de manière à ce qu'ils puissent s'offrir les voitures. Et puis ça s'est généralisé assez rapidement, c'est-à-dire qu'on a assuré des bons revenus pour que les gens puissent s'acheter les choses. Et donc une telle augmentation de la richesse, c'est un compromis irrésistible qui fait que le modèle artisanal, qui finalement est resté réservé à une élite, c'était une production chère, coûteuse, singulière, bien ne permettait pas les mêmes avantages. On s'est enrichi énormément au XXe siècle. Tout d'un coup, on avait accès à tout.
Au fond, vous écoutant, j'ai l'impression que l'artisanat... que vous décrivez dans votre livre, finalement donne un sens au travail. Et aujourd'hui, la question du sens dans le travail est une question centrale. Finalement, comment aujourd'hui réenchanter le travail ? Comment lui redonner le sens que vous décrivez dans votre livre ?
J'ai envie de poser la première question. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question du sens aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce qu'on ne se la posait pas à l'époque de Chaplin ? Quand même une bonne question, parce que le travail n'était pas épanouissant quand on serrait des boulons sur la chaîne d'assemblage. Mais on se pose la question parce que tous les éléments du package qui étaient dans le compromis, dans le contrat de labeur, se mettent à disparaître les uns après les autres. Vous pouvez tout d'un coup avoir la division du travail et la subordination, mais pas la sécurité économique. La division du travail et la subordination, mais pas le revenu régulier qui augmente de année après année. Vous pouvez avoir le travail, mais pas le logement, etc. Il y a beaucoup plus de gens qui sont exclus d'un certain nombre de ces éléments. Les syndicats qui déclinent, toutes ces choses qui ne sont plus tout à fait comme avant. Eh bien, mon intuition, c'est que puisque ces avantages-là disparaissent peu à peu, eh bien, on se pose bien davantage la question du « mais pourquoi donc ?» Pourquoi donc accepterais-je un travail profondément aliénant et ennuyeux ? Pourquoi donc accepterais-je un travail de 9h à 19h avec des horaires contraints et un patron sur mon dos si je n'ai plus ces avantages-là ? Et donc depuis plusieurs décennies que ces avantages petit à petit disparaissent, on se pose bien davantage la question de la division du travail et la question de la subordination. Et donc c'est deux manières de questionner le sens en fait. La division du travail, c'est le travail morcelé, c'est vous ne voyez pas l'ensemble, vous savez pas, vous n'avez pas une compréhension, une vision d'ensemble de ce que vous avez fait. Et c'est par définition en fait quelque chose qui n'a de sens que quand on comprend la globalité.
Alors concrètement, et la citation que je vais dire est un peu longue, pardon, mais vous dites que l'enjeu n'est pas tant d'être salarié ou indépendant, mais de rendre les travailleurs plus autonomes et de réinventer leur expérience du travail autour de l'ouvrage plutôt que du labeur. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors l'ouvrage, c'est finalement tout ce qui se distingue du one best way tayloriste. Le one best way, c'est ce geste unique, idéal, parfait, qui est le sommet de la productivité, et puis qu'on est obligé de faire à l'identique. Et c'est le fondement de l'organisation scientifique du travail de l'âge industriel. Il y avait une manière de faire les choses, et puis on vous la fait rentrer dans le crâne, et puis vous répétez, puis vous faites exactement ça. Eh bien l'ouvrage, c'est tout ce qui n'est pas ça. Et donc c'est qu'il n'y a pas une manière de faire, il y a mille manières de faire, et s'il y a mille manières de faire ou un million de manières de faire, ce que vous faites, c'est vous et vous seul qui pouvez le faire. Et vous le faites et vous laissez une trace de vous. Et donc, c'est ça que j'appelle la créativité. La créativité, il n'y a pas besoin d'être Picasso. La créativité, il suffit de laisser un petit peu de soi dans ce qu'on fait. C'est une relation singulière avec un individu. C'est un échange verbal, humain, singulier. C'est un mail que vous écrivez d'une certaine manière. C'est vous qui le faites et personne d'autre. C'est une petite attention que vous laissez à un client quand vous êtes artisan. Enfin, toutes sortes de choses qui font qu'il n'y a pas qu'une manière de faire.
Est-ce que cette crise du labeur que vous constatez finalement s'accélère avec l'existence des plateformes de jobbing que l'on voit apparaître? En clair, est-ce que finalement les plateformes de jobbing ne vont pas créer une sorte de dumping social généralisé?
Alors c'est une question, les plateformes en fait elles cristallisent en fait nos craintes sur cette crise du labeur. Elles sont un élément de quelque chose de plus large. Elles illustrent la transformation du monde du travail. Je dirais que c'est la dernière goutte d'une transformation ou la dernière touche d'une transformation qui a commencé bien avant. Parce qu'avant la révolution numérique, il y a eu la mondialisation, il y a eu la financiarisation de l'économie dans les années 90, il y a eu l'explosion de l'intérim. Donc c'est pas un phénomène si nouveau que ça, mais la raison pour laquelle ça nous intéresse peut-être encore plus que les autres phénomènes, c'est que c'est très visible parce que on est nous-mêmes les employeurs des travailleurs auxquels on fait appel hein, quand on commence un repas sur une plateforme de livraison de repas à domicile, on devient patron. Hein, donc il y a quelque chose qui est visible qui ne l'était pas auparavant. Peut-être aussi un sentiment de culpabilité. En plus de ça, je dirais qu'autour des grandes entreprises du numérique, il y a une américanophobie assez forte, hein, quand même la crainte d'une domination de notre économie par l'économie américaine. Et puis en plus de ça, il y a le fantasme de l'algorithme patron. Il y a le fantasme en fait des machines qui nous écrasent et qui nous dominent. Donc ça fait beaucoup de choses et ça explique que les plateformes on soit absolument obsédées. Après en réalité ça concerne pas tant de monde que ça. Et puis c'est pas forcément pire que beaucoup de métiers salariés à mi-temps contraints avec des horaires contraints avec des temps de trajet hyper longs et des revenus très très bas. On pense aux femmes de ménage qui travaillent dans des conditions parfois très 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 difficiles, celles qui sont décrites dans le quai de Ouistreham de Aubenas. Enfin voilà, ouais, il y a plein de journalistes qui ont fait des travaux d'enquête là-dessus. On voit qu'il n'y a pas que les plateformes qui, et au contraire peut-être que sur les plateformes il y en a qui ont une certaine liberté de choisir, de consommer le travail.
Alors pour autant, vous dites que les freelancers, comme on les appelle, ceux qui ont fait le choix d'être libres sans être salariés, sont déterminants pour l'avenir du travail. Demain, est-ce que nous allons tous devrons-nous être freelancers pour survivre ?
Alors je pense que Philippe, vous et moi, on l'est ou on le sera, mais ça n'est pas nécessairement pour tout le monde. Là où je dis qu'ils sont déterminants, c'est qu'ils sont une sorte d'avant-garde qui montre à quel point, à l'échelle individuelle, à l'échelle des carrières, on est de plus en plus dans une logique d'ouvrage aussi, qui consiste à assembler par soi-même les différents éléments du paquet du contrat de labeur pour créer un contrat d'ouvrage. Ça veut dire prendre sur soi son assurance, sa protection sociale, son avenir, sa négociation, etc. Et ça, effectivement, de ce point de vue-là, les freelances, ceux que Richard Florida appelle les classes créatives, sont des pionniers et inventent un nouveau modèle qui marche pour eux. Après, ce modèle ne marchera pas pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas un pouvoir de négociation aussi favorable sur le marché du travail. Et puis que, par ailleurs, on peut parfaitement trouver de l'autonomie dans le salariat, en théorie, et il ne tient qu'à l'entreprise d'organiser différemment le travail pour permettre plus d'autonomie et de responsabilité à l'échelle individuelle.
Alors ce qu'il y a de bien avec votre livre, je rappelle le titre, « Du labeur à l'ouvrage, l'artisanat et l'avenir du travail » qui est paru chez Kalman Levy, c'est que vous proposez aussi des pistes de travail, notamment pour imaginer les formes de travail de demain. Et vous écrivez, je vous cite encore, qu'il est temps que cette économie nouvelle requiert des institutions nouvelles, y compris dans le domaine du management. En quoi le fait de changer, de faire évoluer le management, pourra-t-il nous faire entrer dans cette nouvelle ère que vous appelez de vos voeux ?
Alors là, les freelances jouent un rôle déterminant dans la transformation du management, parce que les entreprises sont toujours organisées comme au XXe siècle, hein, pour l'essentiel, et puis il y a toujours voilà, des managers qui surveillent, et puis des gens qui pensent et des gens qui exécutent, ça reste encore globalement la norme. Mais ces choses-là changent très rapidement, et changent très rapidement depuis l'extérieur, parce que ces freelances, hein, qu'il s'agisse des développeurs informatiques, des graphistes, des designers, voilà, toutes sortes de gens qui gravitent autour de l'entreprise en tant que prestataires, eh bien finalement, ils font bouger les lignes, ils font changer la collaboration. Ils ont développé des nouveaux outils, des outils collaboratifs qui fait que on travaille différemment, qu'on travaille davantage autour d'un projet, d'une mission, d'un objectif, avec des populations qui travaillent ensemble dans une même équipe sans être tous salariés de l'entreprise. Certains sont prestataires, certains sont intérimaires, certains sont salariés, avec de l'ancienneté ou pas. On voit que finalement, il y a des formes de contrats très différents qui cohabitent, et ça marche très bien.
Vous restez avec nous, ma chère Laetitia, parce qu'aujourd'hui, vous êtes notre fil d'Ariane pour cette grande première. Complètement à l'ouest, Philippe, c'est aussi des idées pour s'ouvrir la tête, finalement.
Que voir, que visiter, où aller, qui rencontrer, c'est maintenant avec la chronique Carnet de voyage.
Complètement à l'ouest, Carnet de voyage.
Rentrée presque partout, de nouvelles programmations. C'est aussi le cas à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, place du Trocadéro. La nouvelle saison sera lancée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront dans quelques jours, les 21 et 22 septembre prochains. Et puis Philippe, plein de nouveautés à faire en famille, c'est important. Expérimenter l'architecture avec la réalisation de mini-maquettes ou encore découvrir des collections grâce à des visites originales conçu pour les petits, et c'est à partir de 4 ans. Vive la famille. Philippe, on reste dans le même quartier?
Oui, c'est à deux pas de la Cité de l'architecture au Palais de Tokyo, avec une exposition qui parle de travail et d'artisanat, ça tombe bien. Mm-hmm. Cette exposition débutera le 16 octobre et elle s'intitulera « L'esprit commence et finit au bout des doigts ». Elle mettra en lumière la beauté des métiers de l'artisanat et leur caractère contemporain. Pour découvrir les métiers de l'artisanat, rendez-vous donc au Palais de Tokyo, situé 13 avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement.
Alors, je ne vais pas vous piquer votre émission tout de suite, mais complètement à l'ouest, je vous propose de partir à l'ouest. Et complètement à l'ouest, exactement dans le Finistère, à Landerneau. C'est dans cette ville que les fonds Hélène et Édouard Leclerc présentent une exposition très originale consacrée aux cabinets de curiosité. Ça va être très curieux, ça, pour les plus jeunes. Les cabinets de curiosité, ils étaient très prospères au moment de la Renaissance. Alors, ils invitaient les visiteurs à s'immerger dans des lieux remplis d'objets étranges, horloges à automates, tableaux d'insectes, collections de minéraux, monstres marins et figurines hétéroclites. Le spectacle est plongé dans un univers fantasmagorique. C'est absolument déroutant à ne pas manquer. C'est à Landerneau, dans le Finistère, et c'est jusqu'au 3 novembre.
Terminons avec cette brève pleine de verdure. Si vous aimez les arbres en pleine ville, cette exposition est vraiment faite pour vous. La Fondation Cartier célèbre la nature avec une très belle exposition intitulée « Nous les arbres ». Alors que la forêt amazonienne part en fumée, comme un acte prémonitoire, la Fondation Cartier célèbre les arbres avec cette exposition flamboyante, une ode à la fois esthétique, symbolique et engagée, un enchantement végétal et en même temps qu'une cruelle prise de conscience. C'est jusqu'au 10 novembre et c'est à la Fondation Cartier, 261 boulevard Raspail dans le 14e arrondissement de Paris.
Et on peut faire une sieste sous l'arbre ou encore enlacer l'arbre parce que c'est très tendance.
Complètement à l'ouest, l'invité.
L'invité, c'est toujours, elle est toujours avec nous, c'est toujours Laetitia Vito, mon cher Philippe. Vous rappelez qui est Laetitia et ce qu'elle a écrit pour nous et pour vous qui nous écoutez.
Alors Laetitia Vito vient de sortir un fantastique ouvrage, bien sûr, que je vous recommande. Du labeur à l'ouvrage, avec pour sous-titre « L'artisanat et l'avenir du travail » et c'est paru chez Kalman Lévy. Donc nous sommes sur Radio Immo et impossible de parler mutation de travail sans parler ville et immobilier. Alors sur ce sujet, vous dites que, et on en parlait tout à l'heure, que la classe des créateurs qui peuplent les villes, en clair ce sont les emplois les plus qualifiés, ont besoin de tout un tas de métiers de service, garde d'enfants, infirmières, personnel qui font le ménage. Et vous tirez de cette situation une conséquence logique et étonnante en disant que la crise du logement empêche les personnes qui exercent ces emplois de service de se loger dans les villes, devenues par conséquent inabordables en termes de logement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que ces emplois de service regagnent les villes ?
L'immobilier, c'est devenu le nerf de la guerre, en réalité, pour le futur du travail. Pour chaque ingénieur, marketeur qui s'installe dans une grande ville, vous avez, donc pour un emploi d'ingénieur créé, ingénieur ou autre, vous avez 5 emplois dans les services de proximité qui sont créés. La nounou qui garde les enfants, la personne qui sert au restaurant, le coiffeur, le prof de yoga, etc., etc. En gros, c'est un ratio de 1 à 5. Le problème, c'est comme ces villes se sont complètement gentrifiées, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus que des classes créatives dans les grandes villes, hein, c'est ce dont parle Richard Florida dans son remarquable ouvrage « The New Urban Crisis ». Eh bien, le problème, c'est que là où se trouve le travail, c'est tous ces travails de proximité, eh bien, c'est devenu très, très difficile de se loger. C'est devenu trop cher. Certes, on peut trouver un emploi de serveur en claquant des doigts, mais on ne peut pas trouver un logement en claquant des doigts si on n'a pas papa ou maman qui habite déjà sur place. Et donc, c'est devenu effectivement le nerf de la guerre. Alors, ça pose des questions sur la politique du logement, sur la construction, sur la taxation de logements vides. Enfin, il y a vraiment des questions qui sont des questions de politique publique. Il y a des questions aussi qui sont des questions de solidarité intergénérationnelle. On voit que c'est en train de beaucoup jouer un rôle très important, mais ça crée des inégalités, parce que selon si vous avez des parents qui ont un logement ou pas là où vous souhaitez travailler, bah, ça fait toute la différence. Ça pose aussi des questions aux entreprises, aux employeurs. Ça pose des questions de ressources humaines. Finalement, est-ce que ce contrat qu'on propose, il est peut-être pas intéressant tel quel. En revanche, si vous offrez un logement de fonction, ça va faire la différence pour recruter quand vous n'arrivez pas à recruter. Il y a une chaîne de restaurants qui fait ça en France, à Paris, pardon, les serveurs sont nourris, logés, blanchis. Comme ça, ils ont des Italiens. Comme ils servent de la nourriture italienne, ça fait très chic d'avoir des serveurs italiens. Vous avez des écoles en Californie, c'est tellement cher d'habiter à San Francisco, vous avez des écoles qui n'arrivent pas à recruter des professeurs, eh bien, elles proposent des logements de fonction, et là, on arrive à recruter. Donc, il y a des choses, un peu le retour du logement de fonction, ça, c'est une question de recruteur, en fait, une question d'employeur. Vous avez des questions de valorisation de certains postes. Hein. Après tout, si on n'arrive pas à recruter, il faudrait peut-être payer davantage. Et là, évidemment, c'est une question difficile.
Sur le produit bureau en tant que tel, vous êtes aussi assez critique, assez dubitatif sur les nouvelles formes d'organisation de l'espace avec les flex-office, avec les open space. Ça serait quoi pour vous les bureaux à construire ou à aménager pour s'adapter à ces nouvelles formes d'organisation du travail ?
Je suis assez critique sur les bureaux parce que moi je trouve que les meilleurs bureaux, c'est ceux où on n'est pas obligé d'aller.
C'est une bonne idée, ça. Ça ne va pas plaire au patron.
Pourquoi ? Parce que, les open space, ça tue la concentration, ça empêche le travail, pas d'intimité. On se rend compte que finalement, les bureaux étant de plus en plus chers, les entreprises sont bien obligées de mettre plus de gens à l'intérieur des bureaux. C'est obligé, c'est inévitable. Les coûts de l'immobilier sont trop élevés. Et du coup, on a déguisé ça en cool, bien-être, etc. Alors que la réalité, c'est qu'il faut mettre plus de salariés dans un mètre carré. Et donc, évidemment, ça engendre un certain scepticisme de la part des salariés. En réalité, la concentration dans l'espace de plus d'individus dans un open space, ça doit s'accompagner de plus de flexibilité. Si vous avez des bureaux avec des conditions un peu plus dégradées, il faut que vous puissiez, quand vous le voulez, faire du télétravail. Ne pas être forcé de faire l'aller-retour en métro absolument tous les jours à l'heure de pointe, matin et soir. Déjà, votre vie est beaucoup plus facile. Si vous pouvez le faire même en horaire décalé, ça facilite les choses. Et donc, de plus en plus, en fait, le bureau doit se combiner avec d'autres espaces. Les autres espaces, ça peut être la maison, si vous pouvez travailler chez vous, un espace de coworking plus proche de chez vous, le café d'à côté, peu importe. Mais en gros, c'est une combinaison d'espaces. On a un éclatement de l'espace. Et finalement, le bureau idéal, c'est celui qui est dans un lieu très central, là où vous allez pouvoir attirer le plus les talents, mais avec des conditions de travail qui sont beaucoup plus flexibles et qui fait que vous ne passez pas absolument l'intégralité de votre temps au bureau du matin jusqu'au soir tous les jours.
Et si on y passe tout son temps, Philippe a eu une bonne idée pour nous décontracter, c'est de passer de la musique. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui d'écouter Time After Time avec Cyndi Lauper ?
Le travail, le labeur, c'est de la sueur et du temps. Et ce temps, justement, on va le prendre en écoutant un morceau, un peu de lenteur et de permanence avec Cyndi Lauper, Time After Time. C'est une chanson de 1984 sur l'album Shish So. Vous êtes sur Radio Imo avec Laetitia Vito pour son livre « Du labeur à l'ouvrage, l'invité de Complètement à l'Ouest ».
Allez, à tout de suite.
Lying in my bed, I hear the clock.
Cyndi Lauper. C'est vrai que ça nous paraît loin, 1984, sa voix est somptueuse. Cette New-Yorkaise née dans le Queens, une banlieusarde, était arrivée comme un boulet de canon chez nous dans la vieille Europe et elle avait choqué par sa couleur de cheveux à l'époque. Vous vous rendez compte comment on a évolué. Philippe, on continue et dans un instant, on retrouve Laetitia Vito, notre invitée.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Une dernière question pour notre invité.
Oui, une dernière question. Certains disent que le travail est mort du fait de l'intelligence artificielle, du fait du numérique. D'autres, au contraire, réaffirment que le travail restera ce qui élève les êtres humains que nous sommes. Laetitia Vito, le travail, pourquoi faire ?
Le travail, si c'est la torture, effectivement, pourquoi faire ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je pense que tout ce qui est programmable, tout ce qui est automatisable, c'est par définition ce qui est plutôt aliénant. Et de ce point de vue-là, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est pas les tâches les plus épanouissantes que l'on automatise. Alors évidemment, ça pose des questions compliquées pour certains postes qui disparaissent. Et à l'échelle individuelle, c'est pas facile. Mais si on regarde le tableau dans sa globalité, on se dit finalement que c'est peut-être l'opportunité, c'est de se débarrasser du travail une fois pour toutes pour aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'ouvrage et de l'épanouissement personnel.
J'aimerais avoir 30 ans de moins pour vivre un monde de travail qui arrive tel que vous nous le décrivez. Philippe, il est temps de se quitter, pratiquement, hein.
Oui, il est temps de se quitter. Merci Laetitia Vito, merci infiniment d'avoir accepté d'être première invitée.
Ça a été le premier moussaillon de cette aventure et elle a bien joué le rôle.
Je rappelle que votre livre « Du labeur à l'ouvrage, l'artisanat et l'avenir du travail » vient de paraître aux éditions Kalman-Lévy. C'est un livre passionnant.
Très à l'ouest.
Très à l'ouest et passionnant. Je voudrais remercier toute l'équipe de Radio Immo qui a œuvré à la préparation de cette émission, de cette première, et en particulier Billy et Anthony à la technique.
Je le vois frétiller derrière la vitre, lui aussi il est content.
Voilà, c'est fini. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, je vous rappelle que cette émission peut être réécoutée sans modération en podcast sur le site de Radio Immo, ainsi que sur presque tous les players de podcast, comme on dit. D'ici là, bon vent et cap à l'Ouest. Complètement à l'ouest.
Allez, bye bye à tous et je hisse la grand voile pour le mois prochain. Salut Philippe.
Merci Billy.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.